Livre 3. Ancêtre de l'ère de la diffusion. Chung Sin. Quand A.A. affirma à Chung Sin que ses yeux étaient plus vifs et plus beaux qu'autrefois, elle ne mentait peut-être pas. Chung Sin avait été dans le passé atteinte de myopie moyenne, mais sa vision était à présent extraordinairement nette. C'était comme si le monde avait reçu une nouvelle couche de peinture. 6 années s'étaient écoulées depuis son retour d'Australie, mais les épreuves traversées pendant la grande migration et le poids des ans n'avaient laissé aucune trace sur A.A. C'était une plante fraîche et vivace sur les feuilles de laquelle la rosée du temps goûtait sans s'infiltrer. Ces 6 dernières années, la compagnie créée par Chung Sin s'était développée sous la direction d'A.A. à une vitesse époustouflante et était vite devenu l'un des leaders de la construction spatiale en orbite basse. Pourtant, A.A. ne ressemblait en rien à la PDG d'une grande entreprise de l'ère commune. Elle était restée la jeune fille pétillante qu'elle avait toujours été, ce qui ne paraissait néanmoins pas étrange à cette époque. Pour Chung Sin, ces 6 années n'avaient pas existé. Elle les avait passées en hibernation courte. Après son retour d'Australie, elle avait passé des examens qui avaient révélé que sa perte de vue était d'origine psychosomatique. Elle avait subi un choc d'une intensité extrême. Cette cécité brutale avait entraîné un décollement des rétines suivi d'une nécrose rétinienne. Pour la guérir, on avait cloné une partie de ses gènes grâce auxquels on avait pu fabriquer de nouvelles rétines à partir des cellules souches de son ADN avant de procéder à leur transplantation. Le traitement durait néanmoins 5 ans. Souffrant de dépression grave, Chung Sin n'avait pu supporter de passer 5 années de plus dans l'obscurité totale, et les médecins lui avaient permis d'être hiberné. Le monde semblait en effet avoir été repeint à neuf. Tous accueillirent avec joie la nouvelle de l'activation de la diffusion cosmique d'ondes gravitationnelles. L'espace bleu et le gravité furent célébrés comme de mythiques vaisseaux du salut. Leurs équipages furent adulés et devinrent des figures héroïques. Les charges jadis retenues contre l'espace bleu pendant la bataille sombre furent abandonnées et on justifia leur crime comme un acte d'autodéfense légitime. Dans le même temps, on chanta les louanges du mouvement de résistance terrienne qui s'était évertué à lutter jusqu'au bout sur tous les continents pendant la grande migration. La vue de ces guerrieros sans haillons arrachait de chaudes larmes au peuple de la Terre. Très vite, les 2 vaisseaux et les résistants furent hissés au rang de symbole de la grandeur de l'esprit humain, et bon nombre de leurs admirateurs se persuadèrent qu'eux aussi, consciemment ou non, avaient toujours été détenteurs du même esprit. S'ensuivirent des représailles terribles qui s'abattirent sur les forces de sécurité terriennes. Objectivement pourtant, les bienfaits des actions des forces de sécurité avaient largement surpassé ce qu'avaient été en mesure d'offrir les résistants. L'armée humaine pro-trisolarienne avait en effet protégé les villes et leurs infrastructures de base pendant la grande migration. Même s'il s'agissait alors de préserver ces structures pour les trisolariens, ils avaient néanmoins permis la reprise rapide de la prospérité économique au lendemain de la migration. Pendant l'évacuation des migrants, le continent australien avait été régulièrement plongé dans le chaos en raison de disettes et de coupures d'électricité, et c'était encore une fois les forces de sécurité qui avaient maintenu l'ordre et assuré le ravitaillement de tous les réfugiés. Sans cette force armée parfaitement équipée et disciplinée, ce processus long de 4 mois aurait eu des conséquences dramatiques. Mais aucune de leurs contributions n'entra en considération lorsque les membres des forces de sécurité furent traînés devant les tribunaux. Tous furent reconnus coupables. La moitié d'entre eux furent jugés pour crimes contre l'humanité. Au cours de la grande migration, la majorité des pays avaient rétabli la peine de mort et ne l'avaient pas abolie après leur retour d'Australie. Pendant 5 ans, beaucoup d'anciens membres des forces de sécurité furent exécutés. Une grande partie de ceux qui se réjouissaient aujourd'hui de ce châtiment avaient pourtant naguère tout tenté pour se faire enrôler. Mais le calme revint bientôt et les hommes commencèrent à reconstruire leur vie. Les villes et les infrastructures industrielles étant intactes, le redressement fut rapide et, en l'espace d'à peine 2 ans, les cicatrices des cités avaient été effacées et la prospérité d'avant-crise avait retrouvé son essor. On profitait désormais de chaque instant de sa vie. Cette tranquillité s'expliquait aussi par le fait qu'entre le moment où Luoji avait diffusé dans l'univers les coordonnées du système de 187J3X1 pour son expérience de la forêt sombre, et celui où ce monde avait été anéanti, il s'était écoulé 157 années. Une telle période correspondait à la durée de vie moyenne des humains de l'époque. Le taux de natalité tomba néanmoins à un niveau inédit dans l'histoire humaine. On refusait de donner naissance à des enfants dans un monde voué à être détruit. Toutefois, les habitants de la Terre se rassuraient en se disant qu'ils pourraient jouir d'une génération entière de quiétude. Certes, la diffusion cosmique des ondes gravitationnelles était bien plus puissante que l'amplification solaire des ondes radio, mais l'humanité s'était trouvé un nouveau refuge, la remise en question du bien fondé de la théorie de la forêt sombre.